Et nous voulons vraiment dire merci à notre Seigneur pour ce moment qu'il nous donne encore de renouveler notre joie de l'appartenir, de célébrer son nom. Et merci pour Denis, pour cette présidence qui introduit aussi le message que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble. Avant de commencer, j'aimerais lire le passage sur lequel nous allons méditer ce matin. Et ça va? Ok, c'est bon. On va lire 2 Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 7. Vous le voyez bien, on est toujours dans l'étude de 1 roi, 2 rois, 2 chroniques, 1 chronique, 1 Samuel, 2 Samuel. On revient si souvent dans notre prédication à ce niveau. C'est pour nous permettre de nous inspirer de la vie des personnages de la Bible qui ont aussi eu la même foi que nous et aussi qui ont traversé des difficultés comme nous et aussi qui ont demeuré dans la grâce de Dieu et qui ont pu accomplir la volonté de Dieu et par le soutien de notre Dieu. 2 Chroniques 15, versets 1 à 7. L'Esprit de Dieu saisit Azaria, fils d'Obed, qui s'avança à la rencontre d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, vous tous, les Judéens et les Benjamites, l'Éternel sera avec vous tant que vous serez avec lui. Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. Si vous l'abandonnez, lui, il vous abandonnera. Pendant de nombreux jours, Israël a vécu sans avoir ni vrai Dieu, ni prêtre qui l'enseigne, et sans avoir de loi. Au sein de la détresse, les hommes d'Israël se sont tournés vers l'Éternel, Dieu d'Israël. Ils se sont adressés à lui. Il est intervenu pour eux. En ce temps-là, il n'y avait ni paix, ni sécurité pour tous ceux qui allaient et revenaient, car les temps étaient bien troublés pour tous les habitants de cette contrée. Partout, on se battait peuple contre peuple et ville contre ville, car Dieu leur infligeait des malheurs en tout genre. Quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas, parce que vos efforts auront leur récompense. Merci, notre Seigneur, pour cette parole que nous pouvons revoir, relire. Je sais que vous avez déjà lu ces textes, vous avez déjà parcouru, peut-être faire des études bibliques là-dessus. Mais ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse essayer de retirer quelques enseignements dans ce passage. Asa est un roi de Juda qui a régné entre 1910 et 870 avant notre Seigneur, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est considéré comme un bon roi car ses actions sont jugées bonnes au regard de l'ensemble de ses actions par Dieu. Le verset 11 va nous dire plus précisément cela. Les 15 premières années de son règne révèlent un roi fidèle à l'alliance de l'Éternel. Asa va profiter des années de tranquillité et de paix pour mener des réformes à l'intérieur du pays. Il va supprimer les idoles de Salomon qui avait envoyé des idoles d'autres nations à travers ses femmes. Et il va plus loin pour destituer sa grand-mère Maka du poste de reine-mère à cause de son culte rendu à la déesse Akéra. Le verset 13 va nous confirmer cela. Asa va travailler durement pour fortifier son royaume au niveau spirituel et militaire et aussi politique. Durant son règne, il va successivement remporter des victoires à cause de son attachement à Dieu et la reconnaissance de la main de Dieu qui était sur lui, versets 12 à 15. Cependant, à la 13e année de son règne, Asa va multiplier des fautes. Au lieu de faire confiance à Dieu, il va essayer de compter sur des mercenaires achetés à prix d'or et sur de la corruption. Et il va aller également vers des guérisseurs païens pour rechercher une guérison au niveau de ses pieds qui lui faisaient mal. Malgré cette défaillance, à la fin de son règne, son premier zèle a été considéré et évalué d'une manière positive selon Dieu. Aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce que la vie de Asa nous apprend aujourd'hui? J'aimerais relever trois éléments qui m'ont touché pendant ma méditation dans la préparation de ce texte. Premièrement, le fait de tenir le cap. Deuxièmement, le fait de discerner les temps. Et troisièmement, demeurer ferme quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, demeurer ferme en tout point. D'abord, tenir le cap. Nous voyons que Asa avait une armée de 300 000 hommes, très équipés, très doués dans le combat. Cependant, il avait cette conscience qu'il était faible face à l'Éthiopie. Dans 2 Chroniques 14, verset 10, nous le rappelle, il ne pouvait que compter sur l'Éternel. Il s'appuyait sur son Dieu. Malgré son armée, 300 000 hommes, 300 000 combattants qui peuvent aller contre n'importe quelle nation, mais avec tout ces nombreux soldats et chars et ces vaillants guerriers, il se disait, il faut que je m'appuie sur Dieu, parce que sans Dieu, je suis vulnérable. Sans Dieu, je ne pourrais rien faire, même avec mon armée, même avec mes soldats, même avec tout ce que Dieu est, ce que j'ai à ma possession. S'appuyer sur Dieu. 2 Chroniques 14, verset 10, nous allons voir comment sa prière va être déterminante, qui pourrait pour nous aujourd'hui nous inspirer aussi par rapport à notre prière, par rapport à notre vie spirituelle avec Dieu. 2 Chroniques 10, si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à nous. 14, 10, s'il vous plaît, oui. 14, verset 10.
Asa prit le pas de l'Éternel, mon Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à nous de l'Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi.
Amen. Nous voyons vraiment quelqu'un qui est conscient que Dieu, la présence de Dieu est déterminante en toutes choses, dans toute œuvre humaine. Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est vraiment la confession d'Asa dans cette prière-là. Ce n'est pas le nombre de chars et de chevaux qui libèrent, mais c'est l'Éternel qui libère, qui donne la victoire. Comme David pouvait aussi le dire dans le psaume 20, verset 8, aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Amen. Et voici le point important de notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, il est important de s'appuyer constamment sur Dieu, même après les victoires, même après de magnifiques victoires, c'est important de dire oui, je reste attaché à Dieu et j'avance avec lui. Tenir le cap, c'est connaître son impuissance face à une situation. C'est reconnaître sa faiblesse et s'humilier devant Dieu. C'est en même temps rester attaché et dépendant de Dieu, même après des victoires. Car se relâcher, c'est donner vraiment une opportunité à l'ennemi. S'humilier devant Dieu. Nous voyons l'exemple de David. Ce n'est pas devant l'adversité que réellement il a failli. C'est après une bonne victoire, une belle victoire. Il a conquis, il a repoussé les ennemis, il s'est dit, ah, maintenant c'est bon, je peux me reposer. Je peux aller dans ma villa, je peux aller devant ma piscine, je peux faire le tour de ma maison. Et lorsque il s'est mis à cette idée-là, que le problème est venu. Pour nous aussi, j'aimerais ce matin nous interpeller. La vie chrétienne est une vie de marathon, une vie quotidienne, une vie de chaque jour. Même après la victoire, même après des œuvres que nous avons pu accomplir avec Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu veut nous voir toujours à l'œuvre, veut nous voir toujours debout. S'humilier devant Dieu et reconnaître que nous pouvons être vulnérables à tout moment. Dans le maintien du cap, il faut s'appuyer et s'assurer que l'Éternel est avec vous, avec nous. Dans notre texte, nous voyons que l'Esprit de Dieu a délivré un message important pour Asa et le peuple par le biais d'Azaria. Le but de ce message, ce n'est pas les décourager. Non, le but de ce message, c'est vraiment amener le peuple à rester vigilant, à rester constant dans leur engagement avec le Seigneur. L'Éternel sera avec vous et si vous êtes avec lui, si vous l'abandonnez, lui, il vous abandonnera. 1 Chronique 28, 9 aussi reparle de ce texte. Nous voyons ici que Asa, Dieu l'aime et Dieu nous aime aussi. Dieu nous aime jusqu'à ce qu'il a donné son fils Jésus afin qu'il nous amène à lui. Et lorsque Dieu aime quelqu'un, il veut son bien et il essaie de l'avertir et il essaie de lui réveiller à tout moment, constamment, pour l'avoir sous ses regards. C'est comme vous avez vos enfants et vos enfants, vous les aimez bien et vous voyez que les enfants sont en train d'aller vers des dangers. Et parce que vous les aimez, vous allez les donner un avertissement en disant « ne fais plus ça ». Parce que si tu fais ça, tu risques un jour de te faire mal. Et nous voyons dans ce texte, en lisant le chapitre 14 avant le chapitre 15, que le texte nous rappelle que Asa a eu des victoires. Et généralement, dans les textes bibliques, si nous lisons, quand un prophète vient dire à un roi cet avertissement, c'est généralement avant d'aller au combat. C'est généralement avant d'aller au combat que le prophète vient avec la parole de Dieu pour les mettre à niveau dans la parole, dans l'exhortation, pour les encourager et les dire, allez-y, l'Éternel est avec vous, combattez et restez ferme. Mais cette fois-ci, nous voyons que c'est après une victoire éclatante sur les peuples et le prophète vient saisi par l'Esprit de Dieu et adresser ce message à Asa. Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi cela? Pourquoi il y a une inversion de la situation comme ça? Généralement, les prophètes viennent adresser un message avant le combat, mais cette fois-ci, il vient après la victoire pour adresser le combat. C'est juste pour dire simplement à Asa, que Dieu connaît bien, tu risques de te relâcher. Tu risques de s'appuyer sur tes acquis. Tu risques de dire, ah, maintenant je suis fort. J'ai 300 000 guerriers, combattants, bien équipés. Ah, maintenant je peux me reposer en paix. Et là, le Seigneur veut éveiller l'attention d'Asa en disant, ne dors pas parce que l'ennemi ne dort pas. Lui, il est acharné jour et nuit et il peut venir à tout moment. Paul va aussi de la même manière exhorter aux Corinthiens au chapitre 15, verset 58. Il dit, alors mes frères et sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours de mieux en mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en servant le Seigneur, vous ne travaillez pas pour rien. Paul exhorte les Corinthiens à ne pas se relâcher, parce que le fait de travailler et de ne pas avoir des résultats immédiats, ça peut décourager. Ou le fait de travailler en ayant beaucoup de résultats et en voyant qu'on a beaucoup de résultats, on peut se dire maintenant, je n'ai plus besoin de travailler. Et ça peut nous arriver tous. En tant que jeune prédicateur, souvent, je me dis, je n'ai pas besoin trop de mettre beaucoup de temps sur une prédication. Et je me vois trompé totalement. Chaque prédication, il faut avoir du temps. Il faut surtout mettre dans la prière. Même si au niveau préparation, tout est fini, c'est bon, mais au niveau prière spirituelle, il faut arroser par la prière, demander au Seigneur d'intervenir dans les cœurs, dans les pensées, afin que ce message puisse aider chacun à grandir dans la foi et ce message puisse m'aider aussi à grandir dans le ministère. Travaillons de mieux en mieux. Ne nous décourageons pas si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Ne nous décourageons pas aussi. Ne nous appuyons pas aussi sur nos acquis passés et ne pas travailler aujourd'hui. Parce que le combat d'hier n'exclut pas le combat d'aujourd'hui. Discerner les temps. Asa et tout le peuple ont pris conscience de leur pauvreté spirituelle. Et même, il dit qu'Israël a vécu sans Dieu, sans enseignement de la parole, verset 3, comme Denis vient de le citer dans Éphésiens 3. Nous étions sans Dieu, nous étions loin, étrangers de Dieu, et il nous a fait grâce pour nous accepter avec lui, pour nous amener à lui, seulement par sa grâce. Et nous voyons que le peuple était dans cette condition-là, cette condition de pauvreté spirituelle, sans la parole de Dieu, sans Dieu avec eux. Et lorsqu'ils ont discerné qu'ils étaient dans un mauvais temps, parce que sans Dieu, c'est être dans un mauvais temps. C'est savoir consciemment où on en est avec Dieu en temps réel. Asa, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu avec tout le peuple, ils se sont dit dans leur cœur, notre communion avec Dieu n'est pas au top. Revenons à lui. Allons dans un même cœur, dans un cœur de repentance devant lui, pour demander sa grâce afin de rétablir sa communion, notre communion avec lui. Parce que le peuple était dispersé dans l'idolâtrie. Même la reine mère, sa grand-mère qui était, ou sa maman qui était dans une situation d'adoration d'idole, elle avait l'idole Akira dans sa maison. Ça démontre comment le peuple était totalement, ont abandonné totalement Dieu et ils s'appuient sur d'autres divinités. Cette réaction d'Asa et le peuple prouve qu'ils ont entendu et compris le message qui a été délivré. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont pris ensemble l'engagement résolu de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de tout leur cœur et de toute leur âme. Verset 12. On voit que le message que l'Esprit de Dieu a poussé Azaria à délivrer n'est pas tombé dans une mauvaise terre. Ils ont été attentifs. Ils ont dit, oui, effectivement, nous sommes dans un moment où le peuple est loin de Dieu, parce que le peuple s'est enfoncé dans l'idolâtrie. Et Azaria et Asa vont prendre leur responsabilité en disant, non, il ne faut pas qu'on demeure comme ça. Il faut qu'on vienne vers notre Seigneur et notre Dieu. Cette réaction montre que, effectivement, la repentance collective est importante dans une communauté. On peut se repentir individuellement, chacun dans sa chambre. C'est ce que le Seigneur nous dit. Si tu veux aller prier, vas-y dans ta maison, ferme ta porte, prie, et le Seigneur t'entend et il t'exauce. Mais pour un peuple et une communauté, pour réformer et ramener le peuple ensemble devant le Seigneur, il faut un exercice de repentance collective. Pas seulement chacun dans son côté, pas seulement dans la recherche de qui a tort, qui a raison, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, pourquoi cela est arrivé, c'est la faute de qui? Non, c'est la faute de tout le monde. C'est savoir que tout le monde est responsable. Dieu nous attend. Dieu nous attend à tout moment, à n'importe quel moment. Si nous ouvrons nos cœurs, si nous voulons réellement vivre dans sa communion totale avec lui, il est prêt à nous accueillir totalement aussi, à bras ouverts. Comme le fils prodigue, quand il est parti, il a fait ce qu'il voulait. Mais lorsque il a pris conscience que maintenant je suis très loin de mon père, il s'est mis en route. Il n'a pas tardé. Il a dit non, même si mon père, quelle que soit sa dureté, il est plus acceptable que celui-là auquel je me suis livré, c'est-à-dire l'ennemi. Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin d'aller devant Dieu collectivement. J'aimerais vraiment insister là-dessus parce que nous faisons des repentances individuelles, peut-être 2 à 2, 3 à 3. Mais souvent, il est important dans une communauté, dans une église, qu'on essaye de voir est-ce que nous n'allons pas aller devant Dieu collectivement ensemble. Juste écouter Dieu. Juste nous mettre devant lui, dans la prière et dans l'écoute. Cela est aussi important dans un moment difficile, dans un moment où le coronavirus est en train de sévir dans le monde. Les responsables politiques ont leur façon de combattre, ont leur façon d'aller vers ce combat-là. Mais nous, nos armes ne sont pas des armes avec la chair. Nous combattons par l'esprit et dans l'esprit. Que le Seigneur nous inspire collectivement en Église et collectivement aussi dans le monde évangélique. Que nous puissions dire, est-ce que nous n'allons pas aller ensemble devant le Seigneur face à cette situation? Nous humilier devant le Seigneur et demander de nous pardonner et de permettre que sa présence et sa grâce puissent illuminer encore notre monde d'aujourd'hui. L'exemple de Jonas Jonas 2, verset 10, est aussi pertinent concernant la repentance. Il dit, « Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. » Nous voyons Jonas qui reconnaît que par désobéissance, il se retrouve dans le ventre du poisson. Et la seule chose qu'il va faire au moment de sa détresse, c'est crier vers Dieu et se repentir. L'apôtre Jacques nous exhorte également dans cette même directive. Alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez et changez vos rires en larmes, votre joie en tristesse. Faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Jacques 4, versets 7 et 10. Jacques aussi nous appelle, nous interpelle aussi d'aller devant Dieu, de nous approcher de lui. Il nous invite simplement de nous approcher de lui. Lorsque nous sentons que le temps que nous traversons est vraiment un temps de sécheresse spirituelle. Souvent, on peut traverser un moment de sécheresse spirituelle. On peut traverser des moments où on est vraiment, on ne sait pas, est-ce que le Seigneur, oui, dans ces moments, je me sens un peu fatigué. Je me sens un peu trop rempli d'autres choses que de Dieu. Et le Seigneur nous donne cette force de pouvoir dire, je ne vais pas rester là. Je vais repartir vers le Seigneur et demander sa grâce encore pour continuer à cheminer avec lui. Je parle de ce questionnement non pas à propos du salut. Le salut est acquis. Le salut est assuré. Notre vie avec Dieu, notre espérance est assurée à 100%. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le combat spirituel et la vie spirituelle est perpétuel. Il n'y a personne qui est arrivé. On est toujours en train d'avancer comme un cycliste sur son vélo. Lorsqu'il pédale, il pédale. À un moment dit, il s'est dit, maintenant, j'ai assez pédalé. Je vais lâcher la pédale et me reposer sur la selle et laisser le vélo partir. Au moment qu'on s'est mis ça dans cette idée, c'est là que le vélo peut s'arrêter. La vie spirituelle est aussi une persévérance. Demeurer ferme. Le prophète Azaria exhorte le peuple de demeurer ferme dans la persévérance. La persévérance est une condition inéluctable pour notre foi. Sans persévérance, il n'y a pas de fruit. Quand nous ne persévérons pas dans la foi, c'est très difficile de porter du fruit. Le fruit, la persévérance nous aide à porter du fruit à long terme. On ne peut pas porter du fruit du jour au lendemain. C'est chaque jour, chaque matin, lorsque nous sommes arrosés, lorsque l'arbre est arrosé, entretenu, soigné. C'est là que, avec le temps, l'arbre peut porter du fruit. La persévérance est un effort croissant, soutenu devant toutes les circonstances de la foi. Elle nous fait surmonter les obstacles. Elle garde nos pieds affermis et solides afin de porter du fruit qui honore notre Dieu. Le message d'exhortation adressé à Azaria va s'avérer pertinent et important dans la durée. Si on s'arrête juste à la première phrase que Azaria a dit, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu lui adresse cette parole? Parce qu'il vient de remporter des victoires et aussi il vient de faire une réforme importante dans le pays. Le pays a été réformé spirituellement. Il a destitué la reine-mère de son poste de reine-mère et il a nettoyé les idoles de Salomon dans tous les pays. Il a ramené le peuple à Dieu. Mais pourquoi Dieu lui adresse cette parole? Asa va se relâcher. Après plusieurs victoires, il va encore aller voir ailleurs, c'est-à-dire en allant vers les peuples alentours pour tisser des alliances, en disant maintenant, ma responsabilité, c'est de tisser des alliances avec les autres peuples afin qu'un jour, ils puissent me venir en aide pour combattre mon frère, royaume Israël. Asa a commencé à porter des regards sur ces peuples-là. Dans le chapitre 15, versets 1 à 6, il va faire une alliance avec la Syrie qui est considérée comme une infidélité à l'alliance établie avec l'Éternel. Il va aller dans la corruption à grande échelle et essayer de corrompre les mercenaires avec l'argent de l'or du temple. Il va utiliser l'or du temple pour essayer de corrompre les Assyriens afin d'avoir leur faveur pour combattre son frère Israël. Et cela va entraîner que Dieu va dire à Asa une autre parole. Par la suite de cette alliance, considérée comme une infidélité aux yeux de Dieu, Asa entre dans une période où sa relation avec Dieu va être mise à mal. Asa ne va plus écouter Dieu. Lorsque le prophète Anania va aller vers Asa avec la parole de Dieu pour lui dire, Asa, tu es en train de faire un faux chemin. Parce que le fait d'aller vers la Syrie pour chercher du secours, c'est comme une infidélité à Dieu. Le fait d'aller chercher des guérisons avec les faux dieux, c'est une infidélité. Et lorsque le prophète lui a dit ça, il s'est fâché. En lisant le chapitre 16, nous voyons qu'il s'est mis en colère. Et il a dit, « Loin de toi, tu n'as pas la parole de Dieu. » Azaria, oui, mais Anania, toi, tu n'as pas la parole de Dieu. Parce que tout ce que je fais est bon devant Dieu. Et là, il va mettre Azaria et Anania en prison et il va dire, il va continuer sur son chemin. Le comportement d'Aza nous montre que la vie spirituelle est un perpétuel recommencement. Si nous voulons garder le cap, discerner le temps et demeurer ferme dans la persévérance. Nous voyons que la fin d'Asa, quelqu'un qui a commencé vraiment d'une manière vigoureuse et d'une manière intense avec le Seigneur, à un moment va se relâcher. Et ça peut aussi être un point où nous pouvons, nous, ce matin, nous exhorter à ne pas nous relâcher dans notre service au Seigneur. À ne pas nous relâcher parce que je ne vois pas le fruit. À ne pas nous relâcher parce que peut-être j'ai remporté beaucoup de victoires, assez de victoires. J'ai eu un passé qui a été magnifique, qui a été honorable. À ne pas nous appuyer sur ça. Parce que si nous nous appuyons sur ça, nous risquons de nous relâcher, de tout abandonner et de dire maintenant, c'est bon. La sagesse de Dieu nous invite à persévérer et à considérer que nous sommes en train d'avancer, de persévérer avec notre Dieu et avec notre Seigneur. Tant que la vie, il nous prête sa vie et nous met à l'œuvre, nous sommes appelés à avancer avec lui. Pour conclure, j'aimerais nous rappeler trois éléments que nous pouvons retirer dans ce texte, dans la méditation de ce passage. La vie chrétienne est une lutte un combat perpétuel contre les forces du mal. Les forces du mal, je rappelle cela parce que chaque fois, ils ne veulent pas nous laisser avancer comme ça. Ils vont essayer de nous entraver. Les forces du mal peuvent prendre plusieurs formes. Le diable se déguise en plusieurs manières dans le but de nous décourager, de nous mettre dans une situation où nous allons nous dire dans la tête, même si l'idée est magnifique, que maintenant nous sommes arrivés. On n'a plus besoin de démontrer qu'est-ce que nous pouvons faire. Et là, nous tombons dans l'orgueil, dans la suffisance de soi, en disant maintenant c'est bon, c'est fini. La victoire d'aujourd'hui ne nous dispense pas. La victoire d'hier ne nous dispense pas des combats d'aujourd'hui et de demain. Il n'y a pas d'immunisation en matière de combat spirituel. Il y a des maladies, lorsque tu t'atteins une fois, tu es immunisé, c'est bon. Et c'est ce qu'on voulait découvrir avec le coronavirus. Est-ce que ceux qui l'ont, c'est fini, ils ne peuvent plus l'attraper? Et si ça s'avère vrai, qu'on l'a eu et une fois c'est fini, ah c'est bon. On peut rester tranquille parce que je l'ai attrapé et donc c'est bon. En matière de la foi, il n'y a pas d'immunisation. Personne n'est immunisé. Là où on est immunisé, c'est concernant notre salut. On est immunisé. On a le salut d'une manière définitive. Là où nous sommes immunisés, c'est notre assurance. Nous sommes assurés d'une manière définitive. Et aussi là où nous sommes immunisés, c'est notre espérance. Nous attendons avec la gloire de notre Seigneur, avec assurance. Parce que lorsqu'il va apparaître, nous le verrons face à face. Et nous entrons avec lui dans sa gloire pour l'éternité. Que le Seigneur nous aide à vraiment rester ferme, à garder nos yeux fixés sur lui, à ne pas nous appuyer sur le passé pour dire qu'aujourd'hui je ne vais plus avancer, mais toujours chercher à avancer plus et avancer plus avec le Seigneur jusqu'au bout. Que le Seigneur nous aide et aide son Église à continuer à le servir fidèlement, à le faire servir avec la force que Dieu donne à tout moment. Dieu nous a donné sa force aujourd'hui, il renouvelle sa force demain et il nous encourage toujours à continuer à faire confiance en lui et à nous abandonner entièrement dans sa grâce. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour la vie d'Azaria et d'Aza qui ont apporté quelque chose dans la vie du peuple d'Israël. Tu as utilisé Azaria en tant que prophète pour communiquer ta voix, communiquer ta parole, et tu as utilisé Aza pour envoyer une réforme dans le pays d'Israël. Seigneur, ce matin, nous savons que tu as envoyé ton fils Jésus afin qu'il nous communique la parole de vie, afin qu'il nous donne la vie. Seigneur, nous voulons faire confiance à ton fils Jésus et à placer toute notre confiance en lui, quelles que soient les circonstances, les temps, nous plaçons notre confiance en lui. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ceux qui sont découragés. Peut-être parmi nous, des frères et sœurs sont découragés parce que le combat est rude. Les moments sont difficiles. Les gens sont confrontés à plusieurs fronts de bataille. Oui, dans leur vie, Seigneur, nous voulons te demander ton appui. On ne peut pas combattre seul. On ne peut pas, affronter toutes ces situations avec nos propres moyens, avec nos propres pensées, avec nos propres initiatives. Nous voulons, Seigneur, t'abandonner tout, de porter les fardeaux, les difficultés, les obstacles que les uns et les autres sont en train de traverser devant toi. Nous te demandons de relever. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner quotidiennement, chaque jour dans leur vie, afin qu'ils restent dépendants de toi. Seigneur, ne permets pas qu'ils portent les regards sur autre chose, sur des objectifs qui ne sont pas de toi, mais qu'ils portent les regards constamment sur toi, parce que tu es Alpha et Oméga. Tu es celui qui est le premier et le dernier. Seigneur, nous voulons te faire complètement confiance dans notre circonstance, dans le quotidien, Seigneur. Saisis-nous par ton esprit. Seigneur, que ton esprit saisisse chacun de nous, dans, là où il se trouve. Oui, dans les circonstances où chacun se retrouve. Que ton esprit saisisse ton peuple, oui, ton église, tes enfants, afin d'aller avec victoire, victoire après victoire, Seigneur, dans leurs combats, dans leurs difficultés, qu'ils puissent triompher complètement pour la gloire de ton nom, parce qu'ils sont vainqueurs. Ils sont vainqueurs parce que toi, tu as vaincu et tu es le vainqueur qui nous attribue ta victoire pour toujours. Merci pour ton Église et merci pour ton peuple, Seigneur, qui reste attaché à toi jour et nuit en comptant sur ta bienveillance, ta bonté et ta délivrance pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.